Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous sommes avec David Maïnda Kitoko, qui est président de l'association Génération Lumière. Donc, bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc tu vas nous parler de la situation actuelle dans les régions du Kivu, en République démocratique du Congo. Donc tu es aujourd'hui à Grenoble, en ce vendredi 6 décembre, pour une intervention dans une conférence au Centre social de l'Arche, à Cessinet-Parisais, donc pour parler des conflits armés et notamment de l'extractivisme. Donc avant de parler de ça précisément, est-ce que tu peux commencer un petit peu par te présenter ?
Eh bien, vous l'avez dit, hein, je suis David Maïnda Kitoko, je suis président de l'association Génération Lumière. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour me présenter ? J'ai la chance, l'honneur de venir de cette région du Kivu, qui est une région très très belle, il faut souvent le rappeler, mais qui aujourd'hui vit l'exacerbation de tout ce que l'extractivisme peut créer des mauvais. S'il y avait des choses belles qu'elle crée, mais en tout cas, que ce soit au niveau de la guerre ou la destruction humaine et au-delà de la destruction humaine, la destruction de toute condition de vie pour tous ceux qui peuplent ce territoire, que ce soit les humains et les non-humains. Donc je viens de cette région-là. Et donc j'essaye à travers l'association, à travers mon expertise aussi, de ramener un débat sur la question de l'ivresse de la consommation des minerais. Et est-ce que c'est raisonnable de continuer là-dedans, ou est-ce qu'à un moment donné il va falloir s'arrêter un peu pour permettre à la terre de souffler un peu? Voilà.
Tu parles de ce combat et donc tu es président de cette association. Comment elle est née, ton association, et comment est née ton envie de mener ce combat?
Alors, comment est née l'association? L'association est née dans un contexte un peu particulier, on va dire en Europe, où on a la guerre en Syrie dans les années 2015-2016. On a des Syriens qui viennent en Europe. Et moi, à ce moment-là, je suis en classe préparatoire à l'école normale sup de Lyon. Et moi, je suis réfugié en France. Donc, l'école normale sup, en fait, par son architecture et par le cadre qu'il offre, c'est une espèce de bulle, en fait. Donc, j'étais dans une espèce de bulle bien protégée pour faire mes études. J'étais, on va le dire, dans les personnes migrantes, disons-le, j'étais plus ou moins privilégié. En tout cas, j'étais accueilli de manière beaucoup plus digne qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'accueil aujourd'hui. Et en fait, ma bulle explose avec la mort du petit Thaïlan à Lampedusa. Je m'identifie forcément à cet enfant. Et ça ne veut pas dire que je prends conscience des réalités du monde tout d'un coup comme ça, mais en tout cas, c'est un élément déclencheur de la création des Générations Lumière. Je me dis, il va falloir faire quelque chose. Et au même moment, en fait, je reçois régulièrement des messages des amis à moi qui sont, eux, libres de leur mouvement au Congo et puis largement dans la région des Grands Lacs, qui me parlent régulièrement des inondations. Et en même temps, donc, on a une xénophobie qui monte en Occident, à un cynisme absolu. On va voir des dirigeants européens qui vont voir là où cet enfant s'est écroulé comme s'ils ignoraient complètement la réalité. Tout ça me frappe et je me dis, il va falloir se bouger, il va falloir quitter cette bulle, il va falloir faire quelque chose. Et donc je me dis, il va falloir que je m'engage sur la question environnementale, mais pas que. Alors, à regarder les associations écologistes qui existaient à ce moment-là, qui mêlaient la question de l'exil et les questions écologistes, bah, il n'y en avait pas de masse, il n'y en avait quasiment pas. Et en plus de ça, il y a l'autre conscience, par rapport à cette parole xénophobe, l'outil qu'ils utilisaient pour propager cette parole xénophobe, que ce soit les outils de communication, télécommunication, les smartphones ou les caméras, peu importe, il y avait une trace de mon histoire. Il y avait un bout de coltan dans leur téléphone, il y avait un bout de mon histoire dans leur poche. Et c'est moi qui étais l'envahisseur. Donc, tous ces ingrédients vont faire qu'à un moment donné, on va créer Génération Lumière, dont l'idée était de créer un pont entre ce qui se passe dans la région des Grands Lacs et la consommation qu'on appelait à l'époque inconsciente. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens sont inconscients, je pense qu'ils les font de manière tout à fait consciente, mais et la consommation, en tout cas, de ces minerais-là, et les conséquences socio-environnementales et politiques que ça cause dans cette région-là. C'était avant de voir que ça cause d'autres problèmes, même en Occident. Donc voilà, l'association Génération Lumière s'est créée par là, en disant qu'on va faire une écologie qui prend en compte les réalités concrètes, pas une écologie abstraite où on va juste regarder le CO2 et ne plus se poser d'autres questions, mais une écologie qui va prendre en compte les rapports de domination, une écologie qui prend en compte les problématiques de l'exil, les problématiques des inégalités sociétale, des échelles entre États, entre différents États, mais aussi une écologie qui prend en compte enfin, le rapport de domination entre les humains et les non-humains, entre les hommes et les femmes, etc. Vraiment élargir, bref, ce qu'on appelle l'écologie décoloniale.
Oui, et donc aussi une volonté de justice environnementale.
Oui,
Oui.
ah, absolument, parce que, en fait, l'Afrique, je crois, participe au dérèglement climatique à hauteur de 3%. Okay? Et il y a des études qui montrent que si on consommait tous autant que les Américains, on aurait besoin de 300 planètes. Si on consommait tous autant que les Français ou les Européens, on aurait besoin de 14 ou 15 planètes. Donc, il y a quelque part un mensonge qu'on nous a raconté sur le fait que nous sommes tous dans le même bateau. Ce qui permet du coup d'harmoniser les responsabilités et de ne plus jamais se poser des questions. Et en fait, est-ce que Bernard Arnault et moi, on est tous responsables au même titre sur la destruction de la planète? Je ne suis pas si sûr que ça. Est-ce que ma grand-mère qui vit au Congo, qui se nourrit de son poisson à côté du lac, est autant destructeur de la planète que quelqu'un qui peut se permettre de prendre un jet privé, Paris-New York, machin, etc. Non. Donc il y a aussi dans une forme, dans l'écologie que nous on appelle mainstream, une espèce d'impensé ou quelque chose qui est un peu de l'ordre du rapport de domination, de toute façon, c'est comme ça, puis voilà. Et puis surtout, ça permet aux autres, hein, de continuer à parler à notre place, de pouvoir aller au COP, je ne sais pas combien, en jet privé, sans jamais se poser la question de leur rapport à la Terre.
Donc on voit bien là les problèmes de l'extractivisme aussi. Et donc avant, tu as parlé d'un enfant qui t'avait marqué, qui
Oui.
était décédé.
Ah,
Est-ce que c'était dans ce contexte d'extractivisme? Est-ce qu'il travaillait dans les mines? Parce qu'il y a des enfants qui travaillent.
j'avoue que je n'avais pas fait plus de recherches que ça. J'avais juste vu un enfant syrien qui s'écroule à Lampedusa, qui fuit la guerre, qui a traversé la mer et qui arrive à cette plage et on découvre son corps. Et donc, je n'ai pas eu à me poser des questions si c'est l'extractivisme, mais il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, pendant cette crise, Lafarge continuait à extraire du ciment avec des accords avec l'État islamique. Donc, quelque part, il y a toujours un lien avec l'extractivisme. L'extractivisme, c'est vraiment aussi, c'est vraiment quelque chose, une exacerbation d'un système qui a besoin à la fois d'extraire massivement, intensivement, mais aussi qui a besoin d'installer un système politique qui lui soit, on va dire, un accord pour continuer toujours à se fournir en matière. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il y a peut-être un lien avec ça. Mais j'avais pas vraiment fait, moi, un lien. J'avais juste vu un enfant et je m'étais identifié à lui parce que j'ai cette histoire.
Et donc, en parlant de cet extractivisme, justement, je vais prendre une citation de dossier de presse qui est issue du site de votre association, Génération Lumière, donc, qui dit « Je ne vais pas passer par quatre galeries, je suis à l'origine du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, mais personne ne parle ni de ce conflit, ni de moi. » Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer peut-être cette citation et aussi nous dire ce que c'est l'extractivisme, parce que c'est pas un mot qu'on entend beaucoup, étant donné que c'est très invisibilisé.
Ce conflit-là, c'est un conflit qui a fait entre 6 et 10 millions de morts au Congo. Entre 6 et 10 millions de morts. 6 millions, c'est la fourchette basse. Je pense que si ça s'était passé en Europe, il y aurait eu des actions internationales pour stopper ça. Pourquoi est-ce qu'à 8 km d'ici, c'est permis? À 8000 km d'avion, ici, c'est permis. Ce conflit-là, il y a un lien direct avec l'accès aux ressources minières congolaises. Chaque année, on produit entre 2,2 millions de tonnes de cuivre. Le Congo est le deuxième producteur de cuivre. Premier producteur du cobalt au monde. 70% du cobalt produit dans le monde provient de la RDC, avec 50% des réserves. 80% des réserves du coltan. Le coltan, c'est nécessaire dans tous les produits électroniques, notamment dans les condensateurs. Bref, à travers cet accès aux ressources, on a multiplié des bandes armées. On a corrompu les gouvernants, on a installé un système qui soit favorable à toujours extraire, à détruire la terre et ce qui la peuple dans cette région du monde, au Congo. Et donc l'extractivisme, c'est vraiment l'extraction intensive et massive des ressources de la terre, mais ça peut concerner également les humains. À l'époque de l'esclavage, c'était de l'extractivisme. Et sa particularité, c'est que c'est destiné au marché international. Nous ne mangeons pas du cobalt au Congo. C'est pas quelque chose que nous consommons localement. C'est une ressource destinée pour d'autres. La ressource pour nous, c'est le poisson que ma grand-mère voit. C'est le manioc qui est dans le champ du voisin, etc. C'est ça la ressource pour nous. Donc l'extractivisme, c'est ça la définition. Ça vient, c'est vraiment un terme qui vient de l'Amérique du Sud, qui ont expérimenté ça à travers la colonisation et donc qui ont mis ces mots que nous définissons comme une réalité qui se passe également en Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo à travers l'accès aux ressources minières. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, t'as très bien répondu et défini. Et donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être les conséquences directes de cette politique d'extractivisme sur les populations locales en République démocratique du Congo?
7 millions de réfugiés aujourd'hui, au moment où je vous parle. Une grosse partie d'un territoire du Nord Kivu qui est pris par des bandes armées. 11 152 femmes violées par semaine, violées pour accéder aux ressources minières, 40 000 enfants qui travaillent dans des mines, 266 bandes armées. Et avec ça, entre 6 et 10 millions de morts. L'extractivisme tue à la chaîne au Congo. On a installé un système une industrialisation de la mise à mort des Congolais à travers le viol et à travers la mise à mort sociale, parce que le viol, ça ne vient pas juste détruire le corps de la femme, ça détruit d'autres choses qui composent l'humain, c'est-à-dire son esprit, affaiblir son esprit, affaiblir la société pour laisser l'espace vide afin que les bandes armées exploitent plus facilement, ou lorsque ce n'est pas les bandes armées, faire en sorte que le corps des humains, des Congolais, accepte d'exploiter, d'extraire de manière sans se révolter.
Donc on voit bien par ces chiffres effarants qu'il y a des conséquences environnementales, mais aussi énormément de conséquences humaines.
Oui, tu fais bien de préciser sur les conséquences environnementales, parce que souvent quand j'évoque cette question-là, je ne m'empêche pas de penser aux journalistes des RMC qui quelque part disaient que les Ukrainiens auraient intérêt à accueillir les Ukrainiens plutôt que d'autres humains parce qu'ils seraient blancs, parce qu'ils auraient les mêmes voitures. Bref, ils seraient beaucoup plus proches, il y aurait une loi des proximités, etc. Et donc, souvent je dis, bon, puisque les Congolais sont noirs, africains, et que ces femmes semblent être éloignées de votre humanité à vous, il y a quelque chose qui ne connaît pas des limites, des frontières que les humains s'imaginent dans leur tête, ni les frontières physiques qu'on a voulu bien tracer. C'est le dérèglement climatique. Au Congo, le Congo aujourd'hui détient la plus grande forêt boisée au monde, enfin le premier puits de carbone au monde, avant même l'Amazonie telle qu'on la connaissait. Et chaque année, on perd 500 000 hectares de cette forêt, notamment à cause de l'extractivisme. Donc, quelque part, 10 ans de carbone qui était séquestré dans cette forêt sera libéré. Et alors, nous serions peut-être tous égaux face aux effets des dérèglements climatiques. Mais voilà, c'est un peu cynique de dire ça comme ça, mais sur, pour montrer un peu l'absurdité, c'est-à-dire que les questions environnementales doivent toujours être en lien avec les questions sociales. Mais on en arrive à des absurdités où on doit dire « Mais attention, il y a aussi la forêt qui est en train de mourir. Hein. Donc si vous voulez agir, s'il vous plaît, agissez au moins pour la forêt. » Comme si 11 152 femmes violées par semaine n'était pas suffisant pour que l'humanité se bouge.
Et donc, en parlant de ça, on va tout de suite écouter un extrait du documentaire « Du sang de nos portables » qui a été fait par le journaliste Patrick Forestier.
Olivier Herman a 30 ans. À la tête d'une puissante association, il mène depuis 2001 un combat insoupçonné. Un combat qui concerne un des objets les plus indispensables de notre vie.
Ce portable, hein, c'est un fantastique outil quotidien, mais en fait, regardez dedans, hein, il y a du sang dans cet appareil. Il y a du sang parce que dans votre portable, il y a des minuscules circuits électroniques. Et pour que ces circuits fonctionnent, on a besoin d'un minerai qui s'appelle le coltan, exploité à l'est du Congo. Il y a du sang des Congolais qui meurent à l'est du Congo dans un conflit atroce.
Rechercher le coltan, ce précieux minerai au cœur de nos téléphones portables, il faut aller au Congo, à 1400 km de la capitale du pays, Kinshasa, tout près de la frontière du Rwanda, au sud Kivu. Un miracle géologique gorgé de minerais, un pays ravagé par la guerre, 4 millions de morts depuis 13 ans, une région où la violence se nourrit de l'abondance des matières premières.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Je suis toujours avec David, qui est le président de l'association Génération Lumière et qui lutte contre l'extractivisme au Congo, en République démocratique du Congo. Et vous venez d'écouter un extrait du documentaire qui est certes assez vieux, qui date de 2007, mais qui montre bien la problématique et qui pose la question de l'exploitation des populations locales dans l'extraction des minerais qui servent à la fabrication des téléphones, mais aussi des batteries des voitures électriques. Donc il le montre bien dans ce titre qui est « Du sang de nos portables ». Et donc, je voulais te demander quel est le lien, parce qu'il y a un conflit qui est aussi très vieux en République démocratique du Congo, quel est le lien qui se fait entre la politique d'extractivisme et cette guerre ?
C'est tout simplement la demande d'un minerai, ou plutôt, disons les choses de manière beaucoup plus poétique, l'ivresse des minerais des pays riches. Vous avez des minerais partout, ce n'est pas que dans vos voitures électriques. Bien que c'est déjà important, ce n'est pas que... C'est également dans vos salles de bain, la brosse à dents électrique. Vous avez toute la civilisation des pays riches se repose sur les minerais, sur l'extractivisme. Et pour y accéder de la manière la moins chère possible, soyons cyniques, plus rentable économiquement, Au Congo, on a trouvé un système beaucoup plus rentable, c'est de faire la guerre. Ou plutôt, c'est d'industrialiser la mise à mort des Congolais pour libérer de l'espace afin d'extraire de manière la moins chère possible. C'est de corrompre les gouvernants, c'est de financer des bandes armées. Bref, c'est d'installer un chaos, d'organiser un chaos pour accéder aux ressources. Et donc on a des puissances qui se battent pour accéder aux ressources minières. En RDC, c'est le seul lien qu'il faut faire. Tu as dit que le conflit est vieux. Alors, oui et non. Ça ne fait que 30 ans, par exemple, si on fait un lien direct avec les questions des ressources minières liées aux nouvelles, à l'électronique, par exemple, c'est qu'à partir des 30 ans, entre l'électronique et les minerais, c'est 96, 97 à aujourd'hui. Il y avait d'autres conflits qui étaient liés à d'autres formes d'extractivisme. Mais
le conflit lié aux minerais, ça fait pas...
Bah, en tout cas, pas à tous les minerais, liés aux minerais de l'électronique, parce qu'il y avait d'autres conflits liés à d'autres minerais, à d'autres ressources. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas eu... ça a été une continuation d'un système depuis 1885. Mais c'est vrai que depuis 30 ans, on fait un lien direct. Il y a un lien de causalité entre l'accès aux ressources minières congolaise et l'économie de l'électronique, qui est l'économie qui tient le monde aujourd'hui. L'électronique et par ricochet le numérique.
Oui, et donc dans ce conflit, enfin, il y a énormément de corruption évidemment, mais quel rôle joue l'État congolais? Est-ce qu'il intervient ou est-ce que...
Alors, oui, moi j'aime bien quand une fois on a parlé de corruption, de rappeler que c'est la phase pile d'une pièce, quoi. Il y a les corrompus et il y a les corrupteurs. Donc, il ne faut pas que certains se sentent plus humains que d'autres. Ils sont, que ce soit le corrompu ou le corrupteur, ils sont tous immoraux. Il faut les loger dans le même loge. Maintenant, est-ce que l'État congolais intervient? L'État congolais existe sur le papier, mais dans la réalité... Il est très faible. Il est très faible parce que on a un conflit qui dure depuis longtemps et où on nous a placé des dirigeants qui sont en réalité des gérants d'intérêts capitalistes extérieurs. Donc en fait, ils n'ont pas intérêt à ce que la chose s'améliore puisqu'ils font partie d'eux-mêmes qui causent ce conflit-là. Donc oui, l'État congolais intervient en mettant une armée par là, mais qui ne gagne jamais la guerre. Et dans cette armée même, on y trouve des anciens bandes rebelles qui se sont... blanchi dans ça.
Mais une dernière petite question. Toi, quelles sont les principales réformes que tu souhaites voir mises en place pour améliorer cette gestion des ressources naturelles, que ce soit au niveau international ou peut-être aussi au niveau national?
Moi, je crois que parler de la réforme, c'est plutôt chill comme manière de voir les choses. Je pense qu'il faut vraiment... questionner notre manière d'habiter la Terre aujourd'hui. Et là, ça va plus loin que la réforme. Ça va vraiment sur un questionnement de nos sociétés. Ce n'est pas normal, c'est ce qui se passe. Et donc, nous, on pense qu'il faut combattre la colonialité du lieu où elle provient. Donc, on a commencé une démarche au sein du Parlement européen pour porter un certain nombre de revendications, notamment la question de la réparation, qui est assez symptomatique et j'aime bien donner cet exemple parce qu'il permet de voir le paradigme de manière un peu différente. Imaginez que l'Europe met en place une politique de la réparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous aurez des repères cafés qui font partie des politiques publiques de nos États, dans les États européens. Des repères cafés, donc ça veut dire une réparation des outils. Réparation des outils, ça veut dire l'allongement de durée de vie des outils. L'allongement de durée de vie des outils, ça suppose moins de demandes pour des fabricants, moins de demandes pour les fabricants, moins de financements pour des bandes armées, moins de financements pour la corruption. Donc, quelque part, tout un cercle vertueux qu'on crée. Et surtout, en fait, l'allongement de durée de vie questionne aussi le modèle qui est celui qui consiste à aller extraire dans la terre, utiliser, puis jeter, puis, etc. Ça vient questionner le système capitaliste, le paradigme, le modèle d'affaires qui existe aujourd'hui. Donc voilà, on demande que la question de la réparation soit prise en compte de manière plus sérieuse. On demande également de repenser cette transition écologique
qui se base sur les minerais.
Je ne vois pas comment on va sauver la Terre en la détruisant. Je ne vois pas comment on peut sauver la Terre en la détruisant pour extraire une tonne de cuivre, c'est 750 tonnes de déchets. Ça fait, j'ai calculé, ça fait à peu près 105 terrains de foot. Okay. Maintenant, au Congo, on en produit 2 200 000 tonnes.
C'est énorme.
C'est énorme. Mais plus que ça, quand on produit de l'or, c'est encore pire. Je crois que c'est 250 000 tonnes de déchets pour une tonne d'or. C'est massif. On ne peut pas continuer dans ce système-là. Donc il faut se questionner, il faut donc questionner cette transition écologique aussi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire il faut repenser notre manière d'habiter la Terre.
Oui, et donc ça, c'est cette transition écologique, enfin la manière de voir la transition écologique de l'Union européenne qui est basée sur uniquement la baisse des énergies fossiles, en fait ça augmente d'un autre côté.
En fait, moi je ne suis pas contre sur le fait de baisser les énergies fossiles, mais je suis aussi contre le fait d'extraire pour ça. Je pense qu'il faut repenser la répartition du travail sur les territoires. Il faut repenser tout l'urbanisme, etc. etc.
Et prendre aussi les aspects humains.
Les aspects humains. Il faut repenser les questions des inégalités, etc. Il faut repenser le modèle, donc réparer, etc. Mais ça n'est pas pensé. Tout ce qu'on vise, c'est extraire. On ne peut pas changer... dans la plupart du temps, en général, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en tout cas, là, j'attends qu'on me démontre le contraire.
Oui. Eh bien, merci beaucoup. L'émission va devoir s'arrêter car tu vas devoir aller à la conférence. Donc, merci pour l'invitation.
Merci
de nous avoir consacré de ton temps. Et tout de suite, je vous laisse écouter la musique Greenwashing de Trio.
On veut du green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green washing.
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green washing.
On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut
green washing.
On veut
Washing.
Et c'était quoi?
L'apérophonie.
Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.